Votre univers.
Radio Campus 88.3 FM.
Sincèrement, je trouve que vous avez énormément de talent.
Quand tu fais ça toutes les nuits, tu fais à peu près la même chose. Alors, t'habitues.
Radio
100% jeune.
Aucun d'entre eux n'est un professionnel.
Je dirais que cette ferme, elle est aussi... une institution sociale, c'est quand même une institution sociale, c'est un lieu de régulation sociale, c'est un lieu d'action sociale aussi, mais dans des expérimentations qui se co-construisent, à la fois du côté des équipes et à la fois du côté des résidentes.
Après plus de 2 ans d'existence, la construction de la ferme Emmaüs Bodone continue au gré des saisons. Le travail agricole se transmet pendant que le travail pénal se défait pour laisser place au travail social et le réinventer. Investir ce lieu alternatif et y trouver sa place, pour trouver sa place à la sortie de prison, est l'objectif des femmes résidentes et salariées de la ferme. Cette nouvelle étape dans le parcours passe par le travail. Leur travail tout d'abord, leur emploi au champ, à la vente, à l'entretien des lieux et à la cuisine. Le travail aussi des professionnels du secteur social, Maria Ortega, rencontrée dans les premiers épisodes, et les apprentis et services civiques qui la rejoignent. Et le travail d'intégration et de formation fait par les équipes des salariés, mais aussi des volontaires et enfin des bénévoles qui occupent les journées de ce lieu associatif. Cette activité bénévole est nécessaire à la vie de ce lieu et permet les premières rencontres hors de la prison. Nous avons tenu à l'observer et avons été marqués par les rencontres aussi avec les volontaires et bénévoles de la ferme. Cette multiplicité des formes de travail se traduit dans la pluralité des manières de définir les missions et le projet de la ferme. Nous avons entendu dans le premier épisode combien la ferme tente de briser le continuum carcéral qui qualifie la vie de ces femmes. La volonté de contribuer à une fabrique d'une parole à soi, à une expérimentation d'un discours nouveau et libre, amène aussi à se confronter au regard, à l'écoute de l'altérité. Cela est l'objet de la deuxième partie de notre documentaire « Sortir de prison », le deuxième épisode. Ces alternatives et altérités se rencontrent dans ce dernier épisode par le prisme du travail. Le travail sous toutes ses formes.
Évidemment, il y a un mot qui m'est apparu, c'est notamment l'entretien avec Gabi qui insiste beaucoup sur « on n'est pas un lieu de réinsertion, on est un lieu d'insertion ». Donc la question, le mot majeur d'insertion, c'est-à-dire qui passe par le travail beaucoup. Hein, alors c'est quelque chose qui n'est pas très très nouveau dans le travail social, hein, l'idée que c'est par le travail qu'on construit des rapports aussi à l'émancipation. Depuis les années 70, les politiques sociales sont du côté dans une promotion de l'insertion sociale et de l'action globale par l'accès au travail. Donc, premier élément, c'est le travail comme, mouvement émancipatoire. Et avec l'idée du développement du communautaire, de la vie communautaire. Et de la vie communautaire, ça passe par les décisions collectives. Ça passe aussi par des idéaux anticarcéraux, par l'apprentissage du syndicalisme. Mais également, alors là, je pense que c'est partagé, mais avec des postures différentes selon... et les âges, selon aussi les statuts, mais on l'a vu beaucoup chez certaines bénévoles, hein, des utopies féministes pour repenser autrement le rapport à la question de la pénalisation en général et en particulier la question des violences de genre.
Je ne l'ai pas vu.
Oh, en
vrai, j'aimerais qu'on me calme plus fort.
Tu veux laisser les
salles
ici?
Je te laisse, ça ne te dérange pas?
Ok.
Comment? On est combien?
Je ne sais pas, je ne sais jamais un petit peu combien on est. Je remplis la table. J'en ai mis une plus de plus, une table en plus parce qu'il y en a 4 qui n'ont pas en plus. Comme ça, il n'y a personne qui se lèvera. Ou qui voit rien. Là, je vais sortir le pain du four.
Ça sent bon.
Merci.
Ouh, il a l'air beau ce gratin.
Oui. Mais j'espère, hein, qu'il est bon.
petite assiette qui traîne par là.
Et là, je fais ma petite tarte tatin.
Déjà, le dessert est prêt.
Ouais. Et ça, je fais ma salade. Comme ça, tout est fait. Après, je fais un goût de propre là-dedans.
Toujours élégante dans ta belle robe.
Le travail en cuisine, le travail invisible, le travail de soins, le travail d'entraide complètent le travail au champ pour permettre l'activité de la ferme. La multiplicité des formes de travail dans la ferme s'appuie sur la présence des bénévoles, volontaires et services civiques. Les niveaux et les objectifs d'engagement de celles-ci sont différents. Solène, comme d'autres volontaires venus dans la ferme, exerce un statut entre le bénévolat et l'observation participante. Elle est étudiante et s'engage à la ferme pour participer au travail, ainsi que pour compléter, par l'observation, son apprentissage théorique.
Du coup, je suis en troisième année de licence en sociologie à Bordeaux, et pour mon mémoire que je rédige sur les freins à la réinsertion chez les femmes incarcérées, j'avais entendu parler de cette structure. On dit qu'on est plus volontaire, enfin on me dit que je suis plus volontaire, parce que les bénévoles, elles font beaucoup d'accompagnement pour les rendez-vous, et les volontaires sont vraiment impliqués dans le travail des résidentes. Et vu que j'ai pas le permis, je fais pas d'accompagnement, donc j'essaie de me rendre utile au mieux. Donc souvent dans le travail dans les champs, des fois j'aide à la vente. Je voulais savoir à quel point ça pourrait être difficile pour déjà une femme, enfin déjà pour quelqu'un qui est incarcéré, de se réinsérer dans une vie sociale dite « normale » entre gros guillemets. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes. Les femmes, elles sont vues comme les mamans douces, donc toujours attentionnées. Et pourquoi là, enfin, ce que la société a du mal à intégrer pour les femmes incarcérées, c'est que tout le monde n'est pas doux. Enfin, tout le monde a des manières de réfléchir, des manières d'agir. Et moi, je veux savoir s'il y a eu un trouble qui s'est créé pendant la prison qui fait que ça les a traumatisées et qu'elles sont plus les mêmes femmes qu'elles ont été avant d'y rentrer. Et donc c'est ça aussi que j'essaie de voir, c'est à quel point elles peuvent galérer grossièrement à se réintégrer plus tard.
Avec leurs questions, issues des théories des sciences sociales ou de l'activisme militant, les volontaires entrent en contact avec la ferme, le territoire et le terrain de recherche. Elles apprennent rapidement à laisser la place à la relation présente pour revenir plus tard aux questions théoriques. Dans le cadre de l'engagement militant, la mise à distance des utopies pour l'action concrète est un exercice plus périlleux. L'opportunité de mettre en pratique des idéaux dans cette initiative associative semble grande. Elle est pourtant contrariée par l'urgence des situations et les demandes d'aide concrètes des résidentes qui veulent, elles, s'insérer à la sortie de prison et retrouver le plus tôt possible une vie normale. La contradiction entre un idéal et l'expérience de la mise en réalité a été au cœur de notre entretien avec Maria que nous retrouvons.
Là, ici,
c'est la mise à l'épreuve.
Exactement. Et là, voilà, tu envoies deux filles en détention et tu pars pas. Alors, ça va pas du tout avec ta tête, ma chérie. Parce que moi, les projets, c'était un changement dans tous les sens. Hein. Alternative à la prison, alternative féministe, alternative... Après, tu es sur la réalité. C'est rien du tout. Donc, tout est tombé là.
Et c'est ça. C'est
fini. Voilà, il n'y a pas d'alternative pour l'instant. Et on fait avec.
Quand tu es là, confronté au réel, comment on fait avec ça? C'est vrai, c'est comment...
Alors, pour moi, les plus durs, c'est passé, avec les derniers trucs des envoyés de femmes en détention. Parce que pour moi, c'était inconcevable. Mais là, ça, jamais d'envoyer quelqu'un en détention. Parce que je me bats pour les sortir, je ne les rentrerai pas jamais dans ces milieux-là. Mais quand c'est arrivé, avec laquelle j'ai bataillé depuis un an pour qu'elle puisse venir ici, plus d'un an, j'étais battante avec tous les espipes, les uns, les autres, pour qu'elle vienne ici, depuis un an et quelques, elle arrive, et vraiment c'était un joli rencontre, et au bout d'un mois, on dit qu'il faut qu'elle rentre en détention. Moi, j'étais folle, J'étais folle. C'est ça qui m'a touchée le plus à moi, ici. Après, comment je suis remontée sans partir? Parce que là, j'étais vraiment un tout petit filin de partir, vraiment. Parce que là aussi, j'ai compris que c'était impossible qu'on maintienne des situations d'une telle violence. Parce que vraiment, la violence était très forte quand même. À la fin, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est plus important, continuer avec les projets, quand même essayer de changer les choses encore, ou enfin partir comme ça, voilà. Hein, tu vois, c'est... Mais ça a été les passages les plus difficiles contre tes propres croyances, idées, valeurs, tout, que j'ai pu vivre ici. Et là, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis un peu mieux.
Et qu'est-ce qui a fait quand même que tu restes alors?
Mais que je crois qu'on peut faire les choses encore autrement. En tout cas, j'ai travaillé en détention. En détention, on ne peut pas faire les choses autrement. Voilà, c'est évident. Ici, on peut faire encore les choses autrement, j'espère.
Le social se situe à l'articulation entre l'économie de marché et le politique, garant de la démocratie. Les deux piliers essentiels de ce social sont d'un côté le droit du travail et de l'autre la protection sociale, avec la triple logique de l'assurance pour ceux qui sont dans l'incapacité de travailler et de l'action sociale comme projet d'intervention sur la société.
Cette possibilité d'agir dans la société que décrit Michel Hautesse dans l'ouvrage « Les paradoxes du travail social » en 1999 est un levier de motivation important pour les 40% de Français de plus de 18 ans qui répondent avoir une activité bénévole. À la ferme Emmaüs Bodone, les bénévoles rejoignent le projet dans l'espoir de se rendre utile au parcours des femmes résidentes. Les actes de solidarité sont nombreux et demandent eux aussi un travail d'organisation. Lors de notre semaine d'observation, trois bénévoles retrouvent autour d'une réunion Clément, le coordinateur des actions.
Ah ben c'était avant l'arrivée, puisque moi je suis née à Bayonne.
Mais après, en début de semaine, Clément il fait la liste, rendez-vous chez le kiné, rendez-vous, et là c'est les bénévoles qui sont disponibles, qui disent je suis ok, donc du coup après il prévient les personnes, toi tu peux accompagner chez le kiné, il y a le dentiste, il peut y avoir... Le médecin, il peut y avoir...
La CPAM, pour le bilan, moi, ça a été mon premier transport.
Ouais.
J'ai fait mon premier transport comme ça. C'était le bilan CPAM une fois qu'elles arrivent ici. Hein. Elles ont tout leur bilan ouais. à faire. Et oui, c'était ça. Moi, c'est comme ça. Et j'ai vachement aimé ce transport.
Oui, c'est bien dans la voiture. Moi, je prends ma voiture.
J'adore ces moments-là.
Ouais,
moi, enfin, moi, j'ai pris la voiture d'ici et j'ai vachement aimé ce moment parce que je venais d'arriver. Mmh. J'avais eu le temps de me présenter rapidement. Même pour celles qui ne t'ont pas vu, elles ont... Tu sais, ce moment où tu sens que tu es dévisagée, qu'on te...
Bien sûr.
Eh, c'est quoi son nom à elle, déjà?
Mais moi, quand je fais le trajet, que je vais jusqu'à Mont-de-Marsan, il y a une heure et demie de route, aller une heure et demie de retour, elles arrivent, en plus, c'est leur... elles ont vu presque personne, elles sont arrivées la veille, je les accompagne le matin. J'aime bien, parce que c'est des moments privilégiés. Et ce que j'ai trouvé, quand j'ai su que Gabi montait la ferme, donc je me suis proposée comme bénévole, et je trouvais que c'était vraiment un accompagnement, parce que quand on a été, comme on le disait tout à l'heure, enfermé pendant 10 ans, il faut tout réapprendre. Je pense qu'on oublie des tas de choses. Gabi dit qu'il parle d'autonomisation, et c'est vrai, il faut qu'elles arrivent à devenir autonomes sur des tas de choses.
S'arrête et commence le travail. Et on a la sensation, en tout cas, que le travail est continu. mais pour tout le monde, mais de manière différente. Est-ce que le travail de prise en charge affective, par exemple, est de l'ordre du travail? Est-ce qu'on le rend visible dans le travail salarié? Comment il construit le travail? Typiquement dans le travail social, évaluer le travail social, c'est souvent assez absurde, parce que dans le travail social, il y a toute une partie invisible, évidemment liée à la question de la prise en charge des affects, qui est absolument nécessaire, autrement il n'y a pas de travail social, et notamment dans un lieu comme ça, qui est un lieu de vie du quotidien. Je trouve que ce qui est intéressant, et par rapport justement à la vie en détention, c'est que dans la vie en détention, les femmes vont se retrouver, comme avant l'incarcération souvent, dans des emplois peu qualifiés. Donc en gros, le travail de ménage, les oxy-ménages, qui est largement représenté dans les emplois dits féminins en détention, mais ailleurs ou dans tout le secteur des services, et qui existe avant l'incarcération, et pour beaucoup de femmes avant l'incarcération, c'est dans ce type d'emploi qu'elles vont se trouver, dans les statuts d'employés, ou dans tous les travaux qui sont apparentés au travail domestique, donc qui renvoient à l'ensemble des soins matériels, des tâches d'entretien, de nettoyage, etc. Ici, cette notion de travail, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a une double formation. Il y a la formation horticole et la formation vente. Donc il y a une double qualification. Et je trouve que cet apprentissage permet de sortir de la fonction valorisante, et notamment pour d'ailleurs des trajectoires peu qualifiées, de la seule fonction valorisante qui est celle du statut de mère comme forme d'entreprise naturalisée d'insertion sociale. On peut dire que le travail qui est proposé, en tout cas pendant le temps de la ferme, permet de sortir d'un salariat qui est fragilisé et d'un travail précaire qui constitue l'ensemble des trajectoires que ces femmes ont supportées avant l'incarcération, et où, pendant la détention, elles continuent à être maintenues dans des emplois très peu payés et très peu qualifiants. C'est aussi le rôle des travailleuses sociales à la ferme de préparer à cette sortie. Cette exigence, c'est aussi celle qui constitue, qui peut constituer, hein, une intériorisation permanente d'un aveu d'échec si ça ne marche pas pour les femmes. Et ça, je pense que c'est toute la critique qu'on fait sur le capitalisme carcéral. C'est-à-dire qu'au fond, la question de la pénalisation ou de la criminalisation aujourd'hui, elle n'est pas là pour... Enfin, en tout cas, sa justification n'est pas tant d'équilibrer, en tout cas, un schéma de justice, mais la question, elle est plutôt du côté... D'ailleurs, les tâches d'insertion et les missions aujourd'hui, ou les personnes qui s'occupent de ces missions-là, sont plutôt le rôle des associations qui travaillent aux périphéries du cheminement pénal. Les conseillers de probation de peine, dont le métier est d'assurer justement ce suivi et la préparation de la sortie, ça fait des années que ces professionnels démontrent que les moyens sont de plus en plus faibles et qu'il leur est extrêmement difficile de travailler et de mener à bien cette tâche. Celles qui, en tout cas, ne sortent pas en peine sèche, ce qui est le cas donc, des femmes qu'on rencontre à la ferme, puisque justement elles sont à la ferme, donc elles ne sortent pas en peine sèche, c'est parce qu'elles arrivent à mobiliser des ressources extérieures. Donc soit par des associations, soit par des réseaux de connaissances, et il manque aussi beaucoup de structures d'accueil pour des femmes qui subissent des violences de genre, des familles en difficulté, donc des solutions à long terme sont difficiles à trouver. Et par ailleurs, on justifie de plus en plus un arsenal répressif sous prétexte de lutte contre les violences faites aux femmes, mais effectivement le terrain social ne suit pas. Qui produit, en tout cas, qui régule ce qu'on pourrait appeler une forme de justice sociale, eh bien, c'est des lieux comme ça.
Le travail dans cette ferme montre que l'alternative à la prison, c'est créer un réseau de justice sociale. L'exemple des fermes d'insertion démontre comment la préparation de la sortie est possible, et elle démontre aussi que cette préparation demande des moyens. Si le travail au champ est un outil d'insertion, c'est le lien professionnel, la formation, la multiplication des rencontres qui donnent aux femmes le réseau de connaissances et l'imaginaire pour vivre autrement après la sortie de prison.
Et là, comme ça, je vais avoir une vitesse régulière. Et surtout, je peux me concentrer surtout sur le travail et pas sur l'accélération ou sur autre chose. Je me concentre uniquement sur le travail de la terre. Donc par contre, faut oublier de l'enlever, parce que après, sinon, ça, on freine, ça continue à gueuler. Le truc qui est à fond, enfin bref, ça aussi c'est du vécu. Il y a des phares Ça, c'est pour ceux qui travaillent très tard la nuit. Ouais. Ça vous arrivera cet été. Ou très tôt le matin, ça dépend. Le klaxon, ce qui peut être des fois intéressant voilà, quand il faut prévenir des gens. Mm-hmm. Si, normalement, parce que normalement, quand on va sur route, il faut absolument un gyrophare.
Oui.
Donc là, c'est pour utiliser le gyrophare, mais tout ça, on n'a voilà, on a pas besoin. Et ça, c'est pour désactiver, mais ça, je ne devrais pas vous le dire, mais c'est pour désactiver. Je vous ai dit qu'il y avait une...
Comment
on appelle ça ? Une sécurité sur le fauteuil par rapport au... Ça peut se désactiver, par exemple, parce que des fois, il y a des machines qui peuvent s'atteler, par exemple, pour faire du bois. Pour couper du bois.
Oui.
Donc on peut le désactiver. Voilà.
Bon, mais cette pédale là, c'est quoi ?
Ah, oui, bonne question. Ouais. Alors, là, donc celle-là, j'ai dit que c'était par rapport à sa marche avec le 4x4.
Ouais.
Et celle-là, c'est, en fait, ça, c'est le frein à main.
C'est
un frein à main qui est un frein au pied, en fait. Hein. Donc c'est au pied. Et pour le désenclencher, c'est. Attention, des fois que ça bouge, on ne sait jamais. C'est. Hop, ici, la petite molette. Et pour le. Désenclencher ici, tac, c'est dans le même axe. Alors ça, c'est le truc qu'on oublie tout le temps au début, hein. Mmh. Voilà, clairement, parce qu'en plus le tracteur, ça va pas l'empêcher d'avancer, mais bon, ça va pas lui faire du bien. Hein. Voilà. Le carburant ici, donc
dit qu'il le fait directement.
Et donc là, c'est du
facilité, je suppose. Que...
Diesel.
Donc voilà, du diesel, très bien, très bien. Des questions par rapport à tout ce que vous pouvez voir là? Ouais, sur le tableau de bord, la température, c'est très basique, hein. La température, le niveau du carburant, mm-hmm. Et ici, c'est les tours minutes.
Il faut que du diesel.
Ouais, c'est que
du diesel. T'as pas besoin d'autre chose?
Non. Okay. Après, il y a de l'huile.
L'huile tout ça, et tout ça, non? Ça, c'est toi qui gères.
Mais... Ça s'ouvre là avec
d'accord.
La clé.
Okay. Voilà. Bon, et le...
Mais non, théoriquement, il faudrait
la
R,
ça pèse
combien? Elle pèse combien?
Pardon,
pèse combien la R?
Ça finit par peser sur le train avant. Et ça, okay. ça peut le cintrer. Mais on va déjà essayer de le conduire. Donc je vais vous montrer. Alors toujours, prendre un petit périmètre de sécurité parce qu'on ne sait jamais. Vous savez pas comment je conduis, donc voilà. Je vous conseille même encore un peu.
C'est vrai. Quand même, faut se poser.
On peut se marrer un peu.
Ouais.
Donc voilà. Quand moi j'ai le réflexe, quand je démarre, j'ai embrayage.
Frein.
Comme okay. Ça, au moins, j'ai les deux pieds.
T'as pas de surprise.
C'est mes repères. Je sais que j'ai mes deux pieds à appuyer. Et voilà. Et au moins, j'ai pas de surprise.
Allez.
Parce que je vois que tu me nerds.
La courageuse. Comme toutes.
Ouais, très bien.
Tu peux avancer ça s'avance ou pas le siège?
Le siège.
Quand on a des petites jambes, c'est comment?
Je suis loin.
On a des petites jambes, c'est pour que ce soit confortable aussi.
Il s'avance pas le siège.
Ah, c'est con. Ah merde.
Ouais, dis donc, parce que
et le dossier, je sais pas moi, il s'ajuste, non?
Ah non.
Ouais,
en raison de ma recharge.
Ouais.
C'est un tracteur machiste.
Alors, je vois qu'il y a le
Une carte très connue du jeu Le Monopoly, éditée pour la première fois en 1935, indique la phrase suivante. Avancez tout droit en prison, ne passez pas par la case départ, ne touchez pas 20 000 francs. Est-ce que la règle du jeu est la même dans notre société? Pas de nouveau départ, pas de nouvelles ressources. Pour accéder à cette case départ, le levier d'insertion serait donc le travail. Le travail ici poursuit une dynamique de justice sociale qui semble être à l'opposé de ce que la justice pénale a construit dans la vie de ces femmes. Projet rendu presque impossible à l'intérieur de la prison, comme nous en témoigne Alice que nous retrouvons.
J'ai vu plus de gens ressortir détruits de la prison que ressortir réparés. Donc, et puis il y a des personnes, j'ai vu pas mal de personnes qui sortent avec... Je suis sortie le jour J avec une fille. Elle avait deux sacs et elle avait personne pour l'attendre dehors. Elle était seule. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça qui sortent sans rien. Donc je pense que ça, c'est quand même très important, qu'il y ait surtout pour les femmes beaucoup plus de structures comme ça pour pouvoir les accueillir. Parce que une peine, tu peux travailler sur toi en prison, mais dans tous les cas, tu peux pas juste sortir et dire c'est bon, c'est fini, tout ça. Il faut après que tu continues de travailler sur toi pendant au minimum un certain temps. Et il faut des endroits comme ça pour accueillir des gens, parce que tu peux pas prévenir la récidive en laissant les gens sortir et se démerder après tout ce qu'ils ont vécu, en fait. Il n'y a pas de proposition. Moi, j'ai choisi de continuer. J'ai fait une licence de psycho que j'ai pas pu finir, du coup, parce que des histoires de stage, des trucs où il fallait Internet. Ouais. Mais là où moi j'étais, en tout cas, c'est mes parents qui m'ont dû tout faire. C'est eux qui m'ont inscrit, c'est eux qui m'ont imprimé les cours, c'est eux qui me les envoyaient. Parfois, ils faisaient même des recherches sur Internet, parce que du coup, je pouvais pas faire les recherches. Mais au bout d'un moment, il y a une limite aussi à ce qu'ils pouvaient faire et à ce que je pouvais faire. Donc, ça a un peu stoppé net. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, du coup.
D'accord. Et donc, t'as arrêté quoi, au bout de la deuxième année de licence ou...
J'ai fait à peu près 2 ans et demi, en fait. J'ai ma troisième année qui est pas totalement...
Oui, c'est où il y a le stage en licence.
C'est ça.
Et là, il n'y avait pas possibilité de négocier pour que tu...
Non, non, aucun moyen.
Et tu regrettes de ne pas avoir travaillé au bout de ta licence?
Sur le coup, franchement, ça m'a mis un coup, hein, parce qu'ils nous parlent de réinsertion, réinsertion, réinsertion. Et tout le monde me félicitait, ils disaient « mais c'est génial ce que tu fais, c'est exactement ce qu'il faudrait que les gens fassent, tout ça ». Et en fait, c'est eux qui me mettaient un frein à ce qu'ils voulaient que je fasse. Donc ça m'a beaucoup énervée, ça m'a mis un gros coup. Mais après, même aujourd'hui, en fait, j'ai tellement, mais vraiment donné. Je pouvais passer 10 heures à travailler par jour, et encore plus quand il y avait des examens. J'ai tout donné, et même là que je suis dehors, en fait, je ne sais pas si je vais continuer et finir l'année, parce que j'ai plus la force émotionnelle, en fait, de faire des études, je crois. J'ai juste envie de travailler, en fait, vraiment, de gagner ma vie, de m'installer, en fait. Ça m'a mis un coup, vraiment, hein, mais je peux pas te l'expliquer. C'est vraiment... J'avais passé 3 ans, je crois que j'ai redoublé une année, donc j'ai dû passer 3 ans et demi. J'ai tout donné, vraiment tout donné. Je me levais le matin à 6 heures, je bossais jusqu'au soir. Qu'on m'arrête net comme ça.
Bien sûr.
Parce qu'il y a eu possibilité que je sorte, mais ils ont préféré ne pas me laisser sortir. Et du coup, ça a retardé mes études. Et après, le temps que je sorte, en fait, moi, j'en pouvais plus, j'en ai marre. J'ai tellement bossé, j'ai pas envie, en fait, de retomber là-dedans pour l'instant.
D'accord.
Là, j'ai adoré, parce que la psycho, j'adorais ce que je faisais. Mais j'ai plus envie de rester assise à un bureau, d'étudier ou quoi. J'ai vraiment envie d'un travail qui...
Effectif. Enfin, effectif.
Oui, quelque chose de concret, en fait, où je vais gagner ma vie, et voilà.
Et donc là, le métier de maraîchère, ça te plaît comme métier, justement, en termes de formation? Qu'est-ce qui te plaît?
Ouais. J'adore la nature. J'ai pas encore accompli tout le chemin, mais je veux dire, le fait de planter des graines, ensuite tu prends soin de la terre, et ensuite tu récoltes, c'est très dur en ce qui est au milieu d'en prendre soin, et après tu récoltes un peu le fruit de tes efforts, c'est quelque chose. Puis je veux dire, quand tu vois tous les légumes qu'on cueille, ensuite on les lave, c'est beau, ça fait envie. Même des trucs cons, mais voir les petits escargots, les petits asticots, la nature, c'est le vivant, en fait.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corpo e non ci prova più.
Tango. Autre question, comment rendre possible la rencontre d'une multiplicité de voix dans un lieu en constante mobilité? Comment rendre possible le commun dans des visions d'émancipation différentes? Par le travail salarié pour certains et certaines, par l'apprentissage du syndicalisme pour d'autres, par l'accompagnement social fondé sur un mode familial pour d'autres encadrantes encore, pour encore d'autres encadrantes par des pratiques effectives, féministes, prendre en compte la structuration des violences de genre. Comment prendre en compte, en premier lieu, les violences de genre et leur incidence sur la santé mentale? Là, je dirais que c'est ce qui traverse l'ensemble des questions auxquelles aussi l'équipe se confronte. Pour les résidentes, cette pluralité de positions va aussi s'exprimer par des demandes différentes. On peut rester à la ferme dans une temporalité précise. Mais quand on y arrive après avoir passé 15 ans de prison ou quand on est à 2 mois d'en sortir parce qu'on finit sa peine, évidemment que les demandes auprès de l'équipe encadrante vont être différentes. C'est aussi, alors, je dirais, donner à entendre, et ça, je crois qu'on en a eu le souci, c'est-à-dire à la fois toute la complexité de ce lieu expérimental, où tout le monde cherche sa place, où chacun, chacune différemment se confronte à ses idéaux, ses utopies. C'est possible aussi, parce que les possibles changent, mais ces imaginaires, on pourrait dire, concernent tout le monde, mais sont mises en présence et parfois s'opposent, parce que il est difficile de sortir des violences de genre intériorisées, mais également de l'ensemble des violences subies et silencieuses qui façonnent les trajectoires. Et pour autant, toutes les personnes que nous avons rencontrées, et notamment lors de cette deuxième étape, pour toutes les personnes que nous avons rencontrées, le point commun, c'est celui de sortir de prison, sortir de l'enfermement, sortir de tout ce qui a précédé. Sortir de ce qui a précédé, ça ne veut pas dire effacer ce qui a précédé, mais ça veut dire le transformer. Et c'est, je dirais, toute la gageur de ce lieu, et c'est aussi toutes les difficultés auxquelles se confronte ce lieu. C'est-à-dire, comment prendre en compte ce qui a été pour arriver à se transformer individuellement et collectivement. Sortir, c'est aussi sortir dans un lieu qui n'est absolument plus la prison, mais quand même, je le répète, sous convention avec l'administration pénitentiaire. Donc, le sortir est quand même précaire et soumis à des règles. Alors là aussi, qui cherche à s'inventer, qui cherche à se renouveler, mais quand même dans une convention stricte. Cette démarche suppose un travail constant, mais travail constant pour l'équipe encadrante, mais aussi pour les résidentes. Déroger à des règles attendues, formelles ou informelles, déroger à ce qui semble être considéré comme des règles du collectif, ça n'a pas la même incidence pour une bénévole ou pour une résidente. Pour une résidente, ça peut avoir l'incidence de retour à la case prison. Donc, ce travail suppose également la prise en compte d'une pluralité de positions, y compris à l'intérieur de l'équipe encadrante, ce qui n'est pas chose simple. C'est en cela que ce lieu est vraiment un lieu expérimental.
Au-delà du salariat de maraîchère, les résidentes de la ferme ont une activité de travail dont elles seules ont l'expertise. Créer une vie après la peine carcérale. Leur travail, c'est celui-là, sortir de prison. Comment définir le travail d'une sortie de prison ? Aborder le travail comme source d'émancipation demande du courage. Le courage de mettre à l'épreuve les idéaux qui nous permettent d'apporter notre cœur à la tâche. Le courage de rester parfois dans des situations d'une grande complexité jusqu'à laisser apparaître la solution qui permettra au collectif d'évoluer. Le courage aussi de s'autoriser les tentatives et les déroutes essentielles à la création. Pour la réalisation de ce documentaire, les résidentes de la ferme, avec les salariés, les volontaires et les bénévoles rencontrés, ont participé à chaque étape de la production. Des ateliers de création sonore et d'enregistrement ont ponctué la semaine de terrain pour apprendre à se connaître autour de l'enregistreur. En plus de répondre à nos questions, de nous laisser les accompagner dans leur quotidien, elles ont prêté leur oreille à l'écoute d'une première maquette pour contribuer au choix d'écriture. Prendre un chemin, sans encore savoir ce qui s'y trouvera et faire avec, à chaque étape, ce serait une définition de ce travail, de la sortie de prison à la ferme Emmaüs Bodon. Ecco la spunta lo metto, c'è cascato za. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Dernier épisode du documentaire Sortir de prison. Pour cet épisode, Aller au travail, ont été entendues les résidentes Alice, Aude, Laurence et Florence. Les bénévoles travaillant à la ferme et Solène volontaire, ainsi que Maria Ortego, Alexandre Azarian et Clément Charon. Cette recherche-création est menée en coproduction entre la scène de recherche de l'École normale supérieure Paris-Saclay et la compagnie Le Feu au Lac. Soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le département de recherche en sciences humaines et sociales de l'École normale supérieure Paris-Saclay et Radio Campus Paris. La réalisation a vu le jour grâce à la rencontre et l'aide des équipes et résidentes de la ferme Emmaüs Bodone, que nous remercions à nouveau. Écriture et réalisation, Natacha Chetcuti Ozorowitz, Elodie Hervier. Voix, Barbara Ozorowitz. Aide à la réalisation et au montage, Émilie Maxeymous et Michael Bernard. Remerciements à Juliette Binoche, Pascal Corrieri et Volny Fage.
Thank you. Business and things.